L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Dans les entreprises, quand les temps difficiles de réduction de personnel arrivent, le plus évident pourrait consister à sauver d'abord les agents les plus efficaces pour sacrifier d'abord les éléments les moins productifs. Reste qu'entre les deux, il y a les demi-performants qui occupent des postes clés sans lesquels les équilibres généraux ne tiennent plus. Mais il suffit de se dire qu'un employé apparemment inutile pourrait être vital au groupe en ce que sa passivité même pourrait lui valoir d'occuper une fonction stratégique en tant que repoussoir potentiellement très rassembleur pour la motivation globale, voilà que la réduction de personnel s'avère d'office beaucoup plus délicate. Dit comme ça, on devine que l'art de la réduction musicale pour faire jouer par 10 ou 20 ce qui est écrit pour 80 ou 100 instrumentistes n'était donc pas plus compliqué. Depuis le salon long de la bibliothèque Lagrange-Fleuret, Métaclassique réunit une musicologue et deux réducteurs, respectivement Cécile Reynaud qui est directrice d'études à l'école pratique des hautes études, spécialiste du piano au 19e siècle, Benjamin Garcia qui compose et dirige la Malerian Camerata pour laquelle il ramène donc des symphonies notamment de Mahler à une vingtaine d'instruments et l'arrangeur et orchestrateur Robin Melchior qui a réduit de nombreuses partitions notamment pour la symphonie de poche et que voici dans le début du quatrième mouvement de la symphonie pastorale de Beethoven. Nicolas Simon, à la tête de la symphonie de poche dans un extrait de cette symphonie pastorale de Beethoven, le moment de l'orage dans l'arrangement de Robin Melchior, bonjour.
Bonjour.
On dit arrangement pour dire réduction parce que finalement la réduction est un type d'arrangement.
Alors moi quand on me pose la question de ce que c'est que l'arrangement, l'orchestration, la réduction, effectivement je différencie un peu les trois puisqu'il y a plusieurs strates, on va dire que c'est il y a un espèce de spectre de l'arrangement qui peut aller de quelque chose d'extrêmement créatif, où on part d'un unique thème, par exemple, et où on peut aller jusqu'à quelque chose d'assez, finalement, fidèle à une pièce originale, où là, on peut parler de réorchestration, réduction, transcription.
C'est-à-dire que la réduction répond à un principe de fidélité dont l'arrangement, parfois, peut s'émanciper.
Voilà, c'est ça. C'est ouais. Comme ça, en tout cas, que je le définis.
L'autre élément de définition, c'est que dans la réduction, quoi qu'il en soit, il y a moins d'instruments que dans l'original.
Mmh.
Encore que dans le cas présent, il y a des instruments qui ne sont pas du tout dans l'original, notamment le marimba et puis l'accordéon.
Oui, et puis le saxophone baryton aussi, la clarinette basse.
Ouais.
Donc là, effectivement, on a un travail de réduction puisqu'on n'a que 12 musiciens, musiciennes avec une base, on va dire, un peu similaire à celle de Beethoven dans le sens où il y a un quintet à cordes donc, qui va pouvoir reprendre au moins une partie de ce que Beethoven a écrit dans l'original. Mais c'est sûr que pour tout ce qui touche à l'accordéon, au marimba, au saxophone baryton, à la clarinette basse, et même à la flûte et à la clarinette, on va avoir des rôles complètement différents qui vont être à la fois réduits, mais aussi réarrangés, puisque ce sont des instruments qui fonctionnent pas de la même manière que ceux d'un orchestre symphonique. Donc voilà, il y a tout un processus de réécriture. À savoir aussi que cette transcription, cet arrangement se place dans un contexte un peu particulier de cette œuvre plus globale autour de Beethoven qui était un projet de la symphonie de poche pour célébrer le 250e anniversaire de Beethoven qui s'appelait Beethoven si tu nous entends Et l'idée de cet orage, qui, et vous l'avez peut-être remarqué, évoque aussi d'autres motifs de Beethoven que simplement ceux de l'orage. Donc on entend des extraits de la cinquième, on entend des extraits de la neuvième aussi qui viennent
l'hymne
un peu...
L'hymne à la joie qui pointe.
Voilà, qui vient se pointer. Et ça, c'était un peu les, entre guillemets, des leitmotifs que j'ai utilisés un peu à tort et à travers dans ce que j'ai appelé des petits interludes. Et cet orage, en fait, sert d'interlude entre deux plus grands mouvements, un peu des espèces de relecture pot-pourri, medley de plein de musique de Beethoven. Et donc... voilà, on est un peu, c'est un peu hybride, quoi. On est à la fois sur de l'arrangement, de la transcription, de la réduction. C'est en ça que, voilà, je préfère dire que c'est quelque chose d'assez poreux, un spectre assez large dans le travail de réécriture, quoi.
L'accordéon, c'est bien pratique parce qu'il peut faire beaucoup de notes à la fois. Est-ce que c'est parce qu'il fait partie de la symphonie de poche qu'il se trouve là dans le panel et la palette qui vous est donnée, ou est-ce que c'est vous qui avez choisi les instruments ?
Alors non, dans l'ensemble de la symphonie de poche, c'est un effectif défini, donc de 12 musiciens, dont l'accordéon est une place, a une place prépondérante,
ouais,
et qui effectivement... et l'un des trois instruments harmoniques au sens large de l'ensemble, puisqu'on a la harpe, le marimba et l'accordéon. Et c'est surtout un espèce de liant, en fait, parce que c'est un instrument qui se mélange extrêmement bien à la fois avec les cordes et aussi avec les vents. Et donc, comme il est placé en plus au centre de l'ensemble, on peut vraiment l'utiliser comme un instrument pivot pour donner un peu de corps aux cordes qui, à 5, parfois peuvent paraître un peu sèches pour certaines œuvres qui ont besoin d'ampleur, et aussi compléter l'harmonie des vents qui, à 3 ou 4, peuvent parfois un peu manquer d'épaisseur. Alors, c'est un résumé de ce qu'on peut faire avec l'accordéon. Évidemment, il peut être utilisé en tant que timbre à part entière, et c'est ce qui donne aussi le son caractéristique de cet ensemble, et ce qui, d'une certaine manière, permet en permanence d'aller chercher des choses... de s'écarter finalement des œuvres d'origine, parce qu'à partir du moment où on utilise l'accordéon et ce timbre si tellement spécifique, ben on sort forcément d'un son du 19e siècle, enfin même si l'accordéon date du 19e, mais bon, enfin on se comprend, c'est pas un instrument qui était utilisé dans la musique romantique, en tout cas symphonique. Donc voilà, ça permet tout de suite un pas de côté, en fait, d'avoir cet instrument dans ce genre d'ensemble.
Franz Liszt avait transcrit cette symphonie pour piano. Vous êtes servi de la partition de Liszt, ou vous êtes parti de la partition pour orchestre ?
Alors non, je me suis basé uniquement sur les partitions de Beethoven, puisque d'accord, l'idée était de rendre hommage à Beethoven. Le plus fidèle j'ai pu rester dans les moments où ça me paraissait important, le plus je suis resté proche de ce qu'il a écrit lui. Donc non, je ne me suis pas basé sur la version de Liszt.
Bonjour Cécile Reynaud.
Bonjour.
Vous avez beaucoup consulté la partition de Liszt, puisque vous travaillez en effet sur le piano au 19e siècle, et dans le piano au 19e siècle, il y a des transcriptions pour symphonie. C'est une pratique qui n'était pas complètement neuve, puisque déjà au 18e siècle, on faisait des transcriptions pour le clavecin de pièces d'opéra.
Oui, en effet, c'était une pratique qui consistait à réduire pour le clavecin des airs de grands opéras. Par exemple, l'organiste Balbastre a réécrit pour le clavecin des grands airs de Rameau ou de grands opéras du temps. On peut penser, en effet, c'était dans le but de faire entendre ses œuvres dans les structures des salons, mais aussi probablement pour développer en province ce que les habitants de la province ne pouvaient pas entendre puisque c'était à Paris, et faire espérer pour les compositeurs d'être entendus au-delà des maisons d'opéra parisiennes.
Je renvoie à l'épisode de Transcrire de Méta Classique qui avait été enregistré à l'abbaye de Royaumont, où en effet on entendait des clavecinistes s'emparer comme ça de partitions d'opéra. En l'occurrence, au 19e siècle, c'est pas que l'opéra que l'on transcrit pour le salon, c'est aussi donc la symphonie. Dans quel contexte est-ce que Franz Liszt il fait cet arrangement ?
Donc Franz Liszt, comme vous savez, il a écrit beaucoup d'arrangements, de transcriptions, de paraphrases, des réductions entre guillemets pour piano. Je pense que lui-même n'a jamais vraiment employé ce nom. Et alors pour Beethoven, c'est particulier puisqu'il a donné un nom particulier à ces réductions. Il ne les a jamais appelées réductions, il les a appelées partitions de piano. Il ne voulait pas qu'on appelle ça une réduction ni un arrangement. C'était une sorte de transposition sur un autre médium que celui de l'orchestre, mais de l'œuvre, comment dire, intacte. Il voulait que l'œuvre de Beethoven soit intacte, transposée telle qu'elle sur le piano. Alors, dans quelles circonstances ? Là, pour la pastorale, on est au début des années 40, Et enfin, Beethoven commence à être bien connu en France, puisque vous savez, les premières auditions des symphonies de Beethoven par la Société des concerts du Conservatoire, c'est à la fin des années 20. Et donc bah, c'est là que Berlioz, Liszt, etc. les entendent. Et c'est devenu petit à petit... ça a commencé à vraiment faire partie du répertoire parisien, mais ça restait des œuvres extrêmement difficiles. Au fond, en 40, 27, vous voyez, c'est pas il y a tellement longtemps. Et donc, Liszt décide, devant le côté phénoménal de ses œuvres, de trouver, enfin, de les comprendre peut-être, et d'essayer de les transposer telles quelles sur un autre instrument, qui est le sien, et aussi probablement qu'il pourra rendre ainsi accessible à un public plus large. Je sais que Liszt, par exemple, pour les symphonies, pour les partitions de piano, des symphonies de Beethoven, disait, eh bien, elles seront accessibles aux élèves de première année du Conservatoire de Paris. Ce qui veut dire que c'était quand même difficile, parce que le Conservatoire de Paris, c'était la grande école professionnelle de musique de l'époque, hein, fondée en 1795, donc c'était aussi une institution relativement neuve. Et en même temps, relativement accessible, donc difficile, mais relativement accessible, puisque les premières années du conservatoire devaient pouvoir les jouer à prima vista, disait-il. Pourtant, quand on l'entend, on comprend que ce n'était pas non plus une technique si facile.
Et écoutons précisément le même passage que celui que l'on vient d'entendre dans la version de Robert Mancure. Ils étaient forts, hein, les étudiants de première année de piano
première
à l'époque
année,
à Paris.
Je me suis dit quand même, alors je ne sais pas s'il avait inclus l'orage de la pastorale dans son... Peut-être pas, parce qu'il a écrit en fait d'abord la cinquième, la sixième, et la troisième, il l'a faite dans les années 40, au début des années 40. Ouais. Donc peut-être qu'au moment où il a dit ça, c'était peut-être celle-là.
C'était,
qui parlait,
oui, d'accord.
Pour espérer.
En attendant, c'est vrai que ça fait du piano de Liszt presque plus que du Beethoven, non?
Alors, ce qui est, oui, c'est tout à fait intéressant parce que on dit souvent que le pianisme de Liszt s'est développé aussi à partir de ses transcriptions des symphonies,
ouais,
qu'il a trouvées dans Beethoven, dans Berlioz d'abord, on en reparlera,
ouais,
et dans Beethoven, des techniques pianistiques qu'il n'avait pas encore inventées au moment où il a commencé à transcrire les symphonies de Beethoven. Donc vous avez tout à fait raison, c'est du Liszt. C'est du Liszt parce qu'il a ensuite utilisé ces procédés-là dans ses œuvres, dans ses transcriptions, dans ses paraphrases et aussi dans ses œuvres pour le piano, disons, originalement.
Des fois, on dit que Berlioz, il apprend à composer en allant recopier à la bibliothèque du conservatoire les partitions qu'il va trouver de Gluck. On pourrait dire à propos de Liszt qu'il apprend à devenir compositeur en faisant des transcriptions de Berlioz, donc.
C'est, oui, il y a une forme d'inspiration comme ça. Alors, le rapport à Berlioz, il est évidemment différent par bien des aspects de celui avec Beethoven, puisque d'abord la symphonie, alors Liszt transcrit, fait une partition de piano plutôt, de la symphonie fantastique en 33.
Ah oui, donc quasi juste après, puisque c'est 1830 la première version de la symphonie fantastique de Berlioz.
Oui, c'est ça. Ouais. La première version de la fantastique, c'est 30, la deuxième version, c'est 32, à son retour de Rome, et Liszt l'entend, c'est la première fois qu'il rencontre Berlioz, en 32, je pense, et il l'a transcrit en 33, c'est publié en 34, et Schumann, en 35, je pense, écrit son fameux article sur la symphonie fantastique de Berlioz, d'après la transcription de Liszt. Il ne l'avait à l'époque jamais entendu à l'orchestre, puisque Berlioz n'a fait publier la fantastique en version orchestrale qu'en 45. Il voulait pas que d'autres personnes que lui ne s'en emparent. Il avait peur que ça soit mal joué. Donc il voulait, et c'est Liszt qui a fait connaître la symphonie fantastique de Berlioz en Allemagne et puis dans le reste de l'Europe. Donc déjà, voilà, c'est un rapport différent évidemment de celui de Beethoven. Et puis le rapport est différent aussi parce que
à l'époque... Parce que Beethoven est mort et que Berlioz est encore vivant.
Oui, mais aussi parce que Beethoven est un géant et à l'époque, Berlioz ne l'est pas encore qu'à l'erreur. Hein, il l'était déjà, mais on ne le savait pas. Et en fait, quand Liszt transcrit la fantastique de Berlioz, il met au service de Berlioz la célébrité que Liszt a déjà. Et donc, faisant une partition de piano de la symphonie fantastique, il apporte une réelle publicité à l'œuvre de Berlioz, qui est moins connue que lui à cette époque.
À quel point la publicité est mensongère ? C'est-à-dire, est-ce que la partition originale est tant que ça respectée ?
Alors, tout à l'heure, on a donné des définitions de l'arrangement, de la réduction, de la transcription. Et vous avez dit, à un moment, voilà, évidemment, il y a moins d'instruments. Donc là, évidemment, on a beaucoup moins d'instruments puisqu'on n'en a qu'un. Et en plus, cet instrument n'est pas du tout un instrument de l'orchestre. Dans les transcriptions qu'on a entendues, ce sont, à part l'accordéon, des instruments orchestraux. Là, c'est le piano. Alors, est-ce que Liszt respecte l'idée de la fantastique? Moi, je pense qu'il a tout fait pour, parce que encore une fois, c'était la partition de piano, la transposition telle quelle de l'œuvre symphonique au piano qu'il a voulu faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement chaque doigt, quand c'est possible, les 10 doigts doivent pouvoir imiter les instruments divers de l'orchestre, quand il y en a 10, quand il y en a plus, il faut faire avec. Et c'est pas seulement ça, c'est pas seulement chaque doigt individuellement qui imite individuellement les instruments, c'est aussi l'ensemble des 10 doigts qui doit donner l'idée orchestrale, la sonorité orchestrale. On l'a bien entendu dans l'orage, hein. On a vu comment les descentes du clavier avec ses pianos subito rendaient en fait l'expressivité orchestrale. Dans la symphonie fantastique comme dans Beethoven, Liszt prend soin de noter sur la partition chaque instrument. Donc on a la partition de piano, des doigtés, et puis on a, ici c'est la flûte, la harpe, le cor anglais, le hautbois, et chaque doigt doit essayer de trouver la sensation qui retranscrira la nuance, le timbre. Alors c'est une métaphore, hein, c'est quand même le timbre du piano, mais ça sera, si possible, qu'on reconnaisse par la nuance entre les deux, le timbre du cor anglais, le timbre du hautbois, si on parle de la scène au chant.
Chaîne au chant, dont voici un extrait dont on aurait peut-être, sans la connaître, du mal à imaginer que c'était initialement une symphonie, tellement on arrive à quelque chose de très très dépouillé. C'était un extrait de la scène au chant de la symphonie fantastique de Berlioz dans la version donc de Franz Liszt pour piano seul. C'est vraiment un doigt égal un instrument, c'est un peu ça l'idée.
Alors c'est un peu ça l'idée, là c'est assez facile puisqu'au début c'est le dialogue entre le cor anglais et le hautbois. Et en fait, vous disiez, on a du mal à imaginer que c'est un orchestre à l'origine, mais c'est en effet comme ça au début de la scène au chant. Ce sont deux instruments isolés, champêtres, hein, le hautbois, le cor anglais, qui se répondent, et Berlioz a voulu cet isolement. Alors, pour que le public l'accepte, à l'époque, il y avait un programme, c'est une œuvre à programme, le programme de la fantastique et... Bref, ça raconte une histoire et le public pouvait lire ce programme pour comprendre pourquoi c'était si dépouillé. Donc voilà, la version piano respecte ça, mais c'est parfois au point que Liszt indique quand il y a deux instruments à l'unisson à l'orchestre, Liszt veut que le pianiste mette deux doigts sur la touche, qui pourtant il n'y a qu'une touche, mais il faut qu'il y ait les deux doigts dessus pour la sensation peut-être des deux instruments, pour que le pianiste... reconnaissent, vivent l'orchestre.
Arrive à se dire qu'il fait deux timbres à la fois.
Quelque chose comme ça. Mais c'est marqué sur la partition textuellement. Ici, le pianiste doit mettre deux doigts sur la touche. Parce qu'il y a deux instruments à l'orchestre qui jouent à l'unisson.
Et l'espèce de bourdonnement à la main gauche, la brrrr, comme ça, ça fait plus Steibelt que Berlioz quand même. Hein.
Oui, Steibelt très bien. Ouais. En effet, parce que le trémolo au piano, alors Liszt, c'est pas du tout un des premiers à l'utiliser, mais dans cette façon-là, oui. Alors évidemment, c'est la façon d'imiter le continuum des cordes, le trémolo, mais c'est aussi le trémolo, c'est un peu un topos de l'orage, de la nature qui s'agite. On l'a entendu d'ailleurs dans l'orage de Beethoven, et on entendait très bien les trémolos au début, et là c'est aussi le début probablement de l'agitation de la nature.
Mais c'est un topos pianistique.
C'est pianistique,
oui, oui.
C'est à la fois un topos, et ça sert à imiter le continuum des cordes.
Bonjour Benjamin Gardia.
Bonjour David.
Il y a un autre compositeur que Franz Liszt qui s'attelle à la réduction, c'est Schoenberg. Et alors lui, il raisonne pas du tout comme Liszt, il est pas dans un doigt, un instrument, au contraire, il est dans un principe de non-substitution.
Absolument. Alors il faut savoir que aussi il s'attaque pas à la même musique, et au moment où Schoenberg commence à par exemple travailler sur ses réductions, notamment du chant de la terre de Mahler,
c'est dans les années 1920 à peu près.
Ouais, c'est ça.
Juste après.
Il y a une volonté en fait de coller au matériau original, notamment par l'alliage des timbres, par l'utilisation d'instruments qui sont déjà dans la version originale, qui est à la fois touchant. Alors, il rajoute l'harmonium quand même, parce que il y a dans ce chant de la terre, il y a un corpus de cordes qui est difficilement substituable, on va dire, pour donner la matière générale du discours musical. Et en revanche, effectivement, il n'entre pas du tout dans une logique de surinterprétation des choses. Il entre dans une logique d'interprétation par la lecture et par la retransmission le plus telle quelle possible de l'œuvre originale.
Il y a un critique qui s'appelle Nicolas Pierchon qui dit dans Res Musica à propos de cette réduction du chant de la terre qu'elle ôte à l'œuvre de Mahler une part de sa majesté et de sa somptuosité. Vous êtes d'accord avec ça ou alors c'est un mal nécessaire?
C'est un vaste sujet. Après, fondamentalement, je suis pas à 100% d'accord, on va dire, dans le sens où je pense que quand on joue le chant de la terre en version 90 musiciens sur scène, on la joue pas au même endroit que quand on la joue à 15 ou à 20.
Ah oui, la situation est tellement différente.
Voilà,
que la comparaison est curieuse.
À partir du moment où le public, à la place d'être à 30 mètres, se trouve à 3 mètres, je pense qu'il peut bénéficier d'autant de vibrations musicales qu'avec 80 musiciens sur scène quand on est à 30 mètres. Donc il y a un rapport quand même à l'endroit, il y a un rapport à la situation, il y a une intelligence de situation en fait qui est nécessaire quand on réorchestre ou qu'on réduit un matériau symphonique, qui est de savoir à quel endroit ça va être joué. Ce qui est d'ailleurs aussi une démarche compositionnelle, hein, parce que puisqu'on parle de Mahler, quand il écrit la 8e symphonie, il écrit pour 1024 musiciens, il le fait bien parce qu'il sait que cette symphonie va être donnée devant un gigantesque hall de 6000 personnes dans le public, et il faut quelque chose qui remplisse cet espace.
Et donc cette intelligence de situation, ce serait un peu votre réponse à la question que je posais en ouverture de l'émission, c'est-à-dire si on doit réduire un effectif d'entreprise, il faut plus penser situation que efficacité des agents isolés?
Oui, alors si on voulait pousser la métaphore jusqu'au bout, ben, je dirais que il y a deux façons de voir la réduction. Soit on est fidèle à l'œuvre, soit on est fidèle à son propre geste, parce que le contexte l'exige. C'est-à-dire, si la réduction consiste à une réappropriation complète, je pense par exemple à un standard de jazz. Bon, un standard de jazz, il existe, on sait que le titre correspond avec quelques notes de la mélodie. Ensuite, si c'est Miles Davis ou si c'est Louis Armstrong qui s'empare de ça, la réduction ou l'accroissement de la musique va avoir une toute autre allure. Ça, c'est si on est fidèle à soi-même, à sa propre identité. Si on veut être fidèle à l'œuvre, je crois qu'effectivement, après, la démarche est plutôt celle de Schoenberg, c'est-à-dire on essaye de créer l'illusion du timbre orchestral. C'est un peu le travail que j'ai fait avec la Malerian Camerata, avec par exemple le fait que dans l'orchestre on a 12 cordes et ils ont chacun une partie séparée des 11 autres. Donc il y a 5 parties de violon différentes, il y a 3 parties d'alti différentes, il y a 3 parties de violoncelle différentes et une contrebasse. Pourquoi ? Parce que ça permet de jongler un petit peu entre les différents pupitres, d'aller nourrir les pupitres d'alti par un peu de violoncelle quand il y a besoin, ou vice-versa, d'aller chercher le timbre de l'aigu dans l'alto pour aller combler quelque chose au niveau de ce qui devrait être une partie de violon 2, par exemple, ou même de violon 1. Donc quelque part, je répondrai à ce monsieur de Res Musica que l'essentiel, c'est peut-être la fidélité à son propre geste, la fidélité dans la qualité du travail qu'on fournit, et puis surtout la fidélité vis-à-vis du public, qu'on leur vende pas quelque chose qui n'est pas la réalité.
Alors vous êtes attelé à la 7e symphonie de Mahler. Est-ce que vous êtes inspiré de Schoenberg ou vous avez voulu vous inspirer exclusivement de Mahler ce faisant ?
Non, j'ai pas du tout cherché du côté de Schoenberg. Ouais. Pour la bonne et simple raison que moi, dans la transcription de Schoenberg, d'un point de vue purement de spectateur, il y a quelque chose qui me dérange.
Oui.
C'est justement, j'y ai fait allusion sans même savoir que la question allait arriver, c'est l'aspect quintette à cordes pour remplacer toute une section de cordes qui pour moi manque clairement de densité et de matière.
Parce que Schoenberg n'a que 5 cordes en tout, là où vous avez 5 violons, 6 violoncelles et une contrebasse.
Ouais. En fait, Schoenberg cherche vraiment une formation de chambre,
ouais.
Et moi je cherche un petit orchestre. Je crois que la nuance est là.
Ouais. Donc ça fait une poche si le nom été pris par Nicolas Simon.
Je l'ai pris par quelqu'un que je connais, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans.
C'est pas déposé à l'INPI, hein, je crois. Hein.
Non, mais quand même, question de. Il
peut avoir plusieurs poches.
Non, mais il y a vraiment une nuance effectivement à apporter entre la musique de chambre à proprement parler et le petit orchestre.
Voici un extrait de cette 7e. Benjamin Gardia, vous êtes donc à la tête de la Malerian Camerata et à la tête de votre réduction de la 7e symphonie de Mahler. Vous avez dit que vous ne vous étiez pas inspiré du tout de la réduction de Schoenberg, mais est-ce que vous êtes quand même inspiré de ce principe de non-substitution, à savoir que Il y a des fois où au niveau des vents, on a l'impression que vous êtes quand même très contraint par l'original. Vous pouvez difficilement la clarinette la remplacer par le basson.
Oui, absolument. En fait, c'est pour moi, c'est le mimétisme vient justement des timbres et de l'alliage des timbres. Et tout le travail, notamment sur cette symphonie et dans cet effectif-là, puisqu'à la Malériane, on a d'autres formations, même encore un petit peu plus petites, à 16, où là, on introduit le piano. Mais vraiment dans cet effectif-là, moi ce que je voudrais, mon rêve absolu, c'est que les gens qui connaissent la symphonie, entre guillemets, n'y voient quasiment que du feu, et les gens qui ne connaissent pas aient l'illusion de la découvrir dans son entièreté, et encore une fois après dans des lieux adaptés, mais voilà, qu'il n'y ait pas de sentiment de musique squelettique. Et donc pour ça c'est extrêmement important de respecter la recherche des timbres des différents instruments. C'est pour ça qu'en fait il y a littéralement un instrument de chaque, sauf les cors qui sont deux dans les vents, puisque quelque part, bon, l'histoire de la musique en général, mais chez Mahler, il y a quand même un côté encore plus poussé, puisque c'est un compositeur extrême. Hein. Il disait lui-même qu'il n'aimait pas les gens ordinaires, il n'aimait que ceux qui exagèrent. Donc il pousse beaucoup les clichés, les gimmicks de chaque instrument. Et donc on est obligé de faire avec, puisque la musique elle-même, enfin quand Mahler met du hautbois, c'est souvent parce qu'il y a une référence à la solitude. Quand il met du cor, c'est souvent une référence à la nature. Une trompette, souvent une référence militaire. Donc c'est très difficile de vouloir incarner l'identité d'un instrument en se privant de l'instrument lui-même.
À la même époque que Schoenberg fait ce travail sur les symphonies de Mahler, il y a un philosophe qui arrive, qui s'appelle Edmund Husserl, qui lance le concept de réduction eidétique, qui est fondateur de la phénoménologie, à savoir une opération qui consiste à suspendre notre attitude naturelle devant quelque chose pour en saisir l'essence. Or, quand on réduit de la musique, j'imagine qu'on veut aller à l'essentiel, sauf que l'essentiel de l'œuvre de Mahler, on n'en a pas forcément la même appréhension en entrée qu'en sortie de l'exercice. Alors comment est-ce que vous réglez votre époquée ?
Je crois qu'il y a en fait une grande dimension d'interprétation quand on se réapproprie une musique, qu'elle soit pour une réduction, une réorchestration, même en plus grand, peu importe. Il y a des choses qu'on veut mettre en lumière, et pour moi la réduction notamment ne consiste pas forcément à prendre 100 kilos de quelque chose pour en faire 20 kilos, mais d'aller déplacer en fait les sources lumineuses pour en voir des choses qu'on ne voit pas dans la version originale, puisque encore une fois, question de distance, question de géographie orchestrale. Là par exemple, en ce moment je suis sur la 5e symphonie en version 110, quoi. Il y a des choses que j'ai appris à entendre en travaillant sur la partition dans le cadre de futures transcriptions, qui me sont assez complexes à mettre en exergue dans le matériau, enfin dans la version orchestrale pleine puissance, on va dire. A contrario, des choses qui sont beaucoup plus simples, évidemment, dans l'effectif original. Je crois que tout ça n'est affaire que de lecture, d'analyse de l'œuvre, que nous évoque tel plan à tel moment. Est-ce que ça, c'est plus important que ceci ? Est-ce que ceci, c'est plus important que cela après ? Donc, il y a une grande part d'interprétation. Et ensuite, toute la technique consiste à décider de, voilà, pour moi, ce passage-là, c'est ça qui compte. Donc, c'est ça que je vais mettre en avant. Et donc, je mets tous les moyens techniques de ce nouvel orchestre à disposition. Je pourrais, par exemple, citer tout ce qui est de l'ordre des sourdines chez les cuivres, par exemple, qui sont des ustensiles, des outils qu'on n'avait pas encore vraiment au 19e siècle. On en avait un petit peu, mais qui étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins répandus que maintenant, et surtout beaucoup moins complexes et performants. Et clairement, les différentes sourdines des trompettes, des trombones, des cors auxquels on peut avoir accès aujourd'hui ont littéralement ouvert une nouvelle famille d'instruments. On peut maintenant faire rivaliser dans un pianissimo dans l'aigu une trompette avec la flûte, avec la bonne sourdine, et on peut créer des relais comme ça qui sont quasiment inaudibles, si ce n'est pour quelqu'un de très très spécialiste qui aurait vraiment la partition sous les yeux ou qui la connaîtrait par cœur. Donc il y a un vrai rapport à ça.
Mais si je comprends bien ce que vous dites, c'est que la palette du 21e siècle est tellement plus riche pour un seul instrument que celle que Mahler pouvait avoir, que finalement vous avez objectivement presque besoin de moins d'instruments pour rendre le même nombre d'effets qu'il pouvait.
Alors, je ne me permettrai pas de pousser le raisonnement jusque-là. J'entends la réflexion, je vais juste la pondérer un tout petit peu. Ce que je dis, c'est que en voulant être vraiment le plus fidèle possible à ce compositeur que j'adore, aujourd'hui, en 2025, je dispose de plus de moyens qu'il n'en avait à l'époque, lui. Mmh. Ça ne veut pas dire que la version se substitue et qu'elle remplace la première ou qu'elle serait mieux ou moins bien. Pas du tout ce genre de considération. En revanche, si j'avais été Schoenberg, j'aurais pas du tout pris le même parti pris parce que je n'aurais pas eu les mêmes moyens techniques dans lesquels piocher.
Robin Melchior, sur cette tension possible qu'induit l'idée peut-être de la phénoménologie de Husserl, qu'il y aurait une tension entre l'intuition que vous pouvez avoir envers une œuvre, et puisque par exemple l'analyse technique vous en fait faire, et que ces deux rapports à l'œuvre sont pas forcément ajustés d'avance, comment est-ce que vous en débrouillez quand vous abordez une œuvre ?
Ben, je rejoins un peu Benjamin sur le contexte en fait du travail qui doit être effectué. La destination de l'œuvre, le projet qui l'englobe, si c'est quelque chose qu'on fait pour soi, si c'est quelque chose qu'on fait pour un concert en particulier, pour un public en particulier. Moi, je sais que j'ai pas mal d'occasions aussi d'envisager des projets de manière pédagogique. Avec Benjamin, on travaille notamment avec les orchestres démo, etc. Ça oblige forcément à avoir une pensée complètement différente quand on réduit ou quand on adapte du répertoire que ce soit un public de type pédagogique, des enfants ou un public empêché par exemple, qui n'a pas du tout l'oreille ouverte à ce genre de répertoire et à qui il faut permettre d'accéder à ça. Donc forcément le travail d'arrangement, de réduction, de transcription peut être l'objet justement de rendre ça plus accessible aussi. Et puis pour le jeu instrumental, évidemment, quand on a un orchestre de jeunes de premier cycle, typiquement une œuvre de Beethoven ne va pas pouvoir être jouée telle quelle et va devoir être adaptée pour ça. Donc là, c'est un exemple extrême d'une certaine manière, mais même avec des orchestres amateurs d'adultes ou avec des orchestres professionnels, selon l'effectif, selon le projet, selon... C'est peut-être un peu, comment dire, très... une réflexion un peu simple, mais même par rapport au temps dont on va disposer pour monter les projets aussi, il va falloir aller peut-être plus à l'efficacité dans la manière d'envisager l'adaptation. Et ça, c'est valable à tous les niveaux, quoi, quel que soit le degré de transcription de l'œuvre en question. Voilà, je sais pas si je réponds à la question, mais...
Je vais vous y faire répondre encore peut-être par une autre porte. Mmh. Effectivement, pour les besoins d'un projet de la chorégraphe Dominique Brun, vous vous êtes attelé à une œuvre bien connue qui s'appelle le Boléro de Ravel et qui précisément est un thème qui est repris par un instrument, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et tous ces instruments, vous n'en avez pris quasiment aucun. Et vous avez refait votre Boléro avec très peu d'instruments, 6 plus 5 heures.
Oui, alors en fait c'était là aussi une commande, donc ça ce n'était pas mon idée à l'origine, mais quand elle m'a été proposée, j'ai trouvé ça assez amusant. C'est pourquoi je me suis lancé dans cette aventure qui était mine de rien assez difficile, même voire très difficile, puisque le Boléro de Ravel, c'est un orchestre symphonique de très haute densité, on va dire. Alors que effectivement les instruments que j'avais, le chœur de 16 choristes et les instruments n'étaient autres que deux percussionnistes pouvant jouer un peu ce que je voulais, un harmonium, deux cymbalums et un piano mécanique. Et ça, c'est l'effectif en fait de la version 1919 des Noces de Stravinsky, et le projet part de là en fait. Le projet était de faire cette adaptation du Boléro dans l'effectif des Noces, puisque l'idée était de faire un spectacle autour de la chorégraphe Nijinska, et du coup de mettre les deux œuvres en regard. Et donc il a fallu procéder à cette réduction extrême. J'ai fait un gros travail préparatoire en fait pour ça, où en fait si je me souviens bien, il y a 18 itérations je crois du thème dans le Boléro.
Et,
14,
enfin, et vous n'aviez pas 18 instruments. Donc,
Donc il y avait de toute manière des tours de passe-passe à effectuer pour varier les plaisirs. Et un peu comme le disait Benjamin tout à l'heure, avec un seul et même instrument on peut ruser pour obtenir différents timbres, alors avec une sourdine pour la trompette par exemple, mais avec des jeux, des registres pour un harmonium, voilà, selon qu'on met le 4 pieds, 8 pieds, le jeu de flûte, le jeu de basson, on obtient des timbres différents. Et alors c'est vrai qu'à l'échelle d'un orchestre, bah, si on mettait un harmonium qui change de registre, ça va pas faire une grosse différence de timbre, mais à l'échelle d'un effectif aussi réduit, bah, dès qu'on va changer en fait le registre, ça va faire une grosse différence. Et tout l'enjeu, finalement, c'est d'essayer de transcrire, enfin de réduire le spectre, ou plutôt d'augmenter le spectre des possibles avec le peu d'instruments qu'on a, pour que la moindre petite différence qui, à l'orchestre, peut paraître minime, bah, ici, devient d'un seul coup prépondérante, et jouer avec cette espèce de compresseur de timbre qu'on a à disposition pour transformer un effectif gigantesque en quelque chose de beaucoup plus petit, tout en gardant le contraste.
Quoi. C'est déjà que c'est une œuvre répétitive, dont ne changent que les couleurs. S'il n'y a plus la variété des couleurs, c'est encore plus répétitif.
Effectivement.
Ouais. Donc vous avez fait une sorte de sudoku.
Oui, alors c'est ça, tout à fait. Avant de commencer à écrire, j'ai fait un énorme sudoku en me disant qu'est-ce que j'ai à disposition, quelles sont mes ressources, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux aller chercher avec mes connaissances, avec ce que je connais des instruments. En plus, c'est des instruments pour lesquels j'avais pas spécialement l'habitude d'écrire. Par exemple, le cymbalum, j'ai un peu découvert l'instrument. Enfin, j'avais écrit une ou deux fois pour ça, mais rapidement. Et là, il a fallu traiter l'instrument avec un peu plus de connaissances, quoi. Pareil pour l'harmonium. Enfin, voilà, c'est des instruments. Alors, le piano mécanique, pour le coup, là, il y avait quelque chose d'assez, on va dire, intéressant. Et puis, qui a permis d'utiliser. Moi, le piano mécanique a été un peu le centre de mon travail, parce que comme c'est un instrument qui peut jouer les 88 touches en même temps si on le programme pour ça, comme si on avait 5 ou 6 instrumentistes qui jouaient en même temps, il y avait comme une forme de. Je pense que dans mes souvenirs, j'ai vraiment travaillé sur une espèce d'accumulation du minimum de ce que je pouvais mettre au piano jusqu'au maximum de ce que je pouvais mettre au piano. Et ça a pas mal jalonné le travail pour une espèce de cohérence de timbre globale. Chose que j'ai fait aussi pour le chœur en voyant les différents timbres, que ce soit ténor, basse, alto, soprano, A1, A2, A3, A4, dans quel registre, et jusqu'où je peux monter, est-ce que quand j'associe les deux, etc. Et toutes les configurations, comme vous dites, ça faisait un espèce de grand sudoku. Et avec un maximum de configurations. Alors après, l'aspect purement, on va dire, esthétique musicale de la chose peut-être un peu discutable. N'empêche que je trouvais que par rapport à finalement l'exercice de style que Ravel proposait déjà à la base, qui était, comme il le disait lui-même, un espèce d'exercice d'écriture, un exercice d'orchestration, même si bien évidemment on sait tous que c'est bien plus que ça, mais c'est un peu comme ça qu'il présentait l'œuvre aussi. Ça n'était pas contre-indiqué finalement. Le geste lui-même était presque dans la lignée de ce qu'est le boléro aussi, quoi.
Et voici ce que ça donne avec Mathieu Romano à la tête de Chœur Aedes et des quelques musiciens de l'Orchestre des Siècles.
Thank you.
Et vous avez aussi joué avec bouche ouverte, bouche fermée. En gros, ça voulait dire bouche ouverte, ça fait basson, bouche fermée, ça fait clarinette. Non, c'est quand même pas...
Non, c'était plus une histoire de volume.
Oui, parce qu'il fallait gérer le crescendo.
Voilà, c'est ça.
Structurant qui fait le climax.
Les premières itérations, plutôt bouche fermée, demi-fermée, ouverte. Le fait d'utiliser des voyelles... O ou A, tout ça, ça forcément ça ouvre aussi la perception sans forcément que la nuance soit plus importante, donc c'était autant de petites choses que j'ai pu utiliser pour varier plaisir, et c'est vrai que bon, bah, dans un extrait comme ça on s'en rend pas forcément compte, mais en partant, en fait voilà, l'idée c'était de mettre l'auditeur ou l'auditrice en hypnose et puis de que la mayonnaise monte encore une fois dans avec ce compresseur que j'avais à disposition, quoi.
Benjamin Garcia, vous êtes attelé à la deuxième symphonie de Mahler, alors même que Mahler prescrit pour la section des cordes le plus large contingent possible. Vous vous ramenez avec vos 12 cordes et vous faites quand même la deuxième symphonie. Et en plus, vous faites Urlicht, ce moment vocal.
Alors, je précise que je n'ai fait que Urlicht.
Ah, d'accord.
De la deuxième symphonie, pour l'instant. Ouais. Encore une fois, tout est affaire de contexte, et quand Mahler exprime le plus large possible, il faut savoir que souvent, alors pour la deuxième symphonie, je l'ai plus en mémoire exactement, mais par exemple pour la troisième et pour la sixième, on sait qu'il a fait fusionner deux orchestres de deux villes voisines, et quand on regarde finalement les effectifs des orchestres de l'époque, on s'aperçoit qu'on n'est pas non plus...
C'était pas si volumineux que ça. Ouais.
Bah, ils étaient moins volumineux que quand on les joue maintenant, en réalité. Alors, il y a plein de choses qui s'expliquent là-dedans. C'est que, évidemment, bah, l'organologie des instruments n'était pas la même, notamment chez les vents. Moi, je le vois pour avoir fait beaucoup de projets avec les siècles, notamment le disque sur Titan. Effectivement, les cordes en boyau ont quelque chose de percussif, qui projette beaucoup plus que les cordes modernes. Et à l'inverse, les vents ont quelque chose de plus feutré, et notamment les cuivres qui se dissimulent beaucoup mieux dans les lignes de cordes. Donc tout ça est à prendre toujours avec beaucoup de pincettes, puisqu'il y a un contexte là-dedans.
Et voici donc ce Urlicht chanté par Ambroisine Bray avec la Malerian Camerata sous votre direction. C'est enregistré le 4 juillet 2018 au Corégie d'Orange.
Thank you.
Cécile Reynaud, vous venez de faire paraître un livre intitulé « L'épopée au temps de Berlioz » des éditions Le Passage, qui est un collectif que vous avez dirigé. Et bah, on y trouve les Troyens de Berlioz, qui donc est une des épopées. Et alors, pour revenir à notre thème de la réduction, les Troyens est un lieu où Berlioz s'est auto-réduit, on peut dire.
Alors oui, c'est extraordinaire, mais en effet, la seule partition de piano qu'on ait de Berlioz, c'est celle qu'il a réduite, là pour le coup, de son orchestre des Troyens. Vous savez peut-être que Berlioz n'était pas un grand fanatique du piano, il n'en jouait pas, mais là...
Parce qu'il était guitariste.
Hein. Il était, ouais. Guitariste, flûtiste, le piano, il appelait le kaléidoscope musical, il n'aimait pas trop. Il n'a jamais écrit pour le piano, sauf pour les Troyens, pour des raisons très pratiques, parce que sa partition était énorme. Il voulait absolument la faire donner à l'opéra ou au théâtre lyrique, quelque part en tout cas. Il n'y arrivait pas. Et donc, pour convaincre les directeurs de l'opéra, il fallait qu'il apporte une partition et qu'il montre qu'il puisse, pas la jouer lui-même, mais qu'il puisse en tout cas montrer cette partition, une partition qu'il pouvait transporter. Il y a un autre intérêt de cette réduction, parce qu'on peut l'appeler vraiment comme ça, on n'est plus chez Liszt là, c'est que quand... Alors Berlioz a commencé par écrire sa partition d'orchestre et de voix, bien sûr, de son grand opéra, et puis il s'est mis à la réduction pour piano, à la version champ-piano, si je peux dire, et en travaillant la version champ-piano, il a retravaillé le manuscrit orchestral et pour voix. Donc c'est vraiment un travail d'aller et retour entre la partition orchestrale et la partition pour piano, où on voit, même s'il n'aimait pas le piano, le travail de réduction lui a permis de retravailler sa partition d'orchestre. Donc c'est vraiment une partition intéressante, même si ça n'a rien à voir avec l'orchestre, évidemment. Ça l'est aussi parce que c'est un épisode assez intéressant dans sa carrière d'écriture, c'est qu'il travaillait beaucoup avec une immense cantatrice de l'époque qui s'appelle Pauline Viardot, à l'époque où il voulait faire monter les Troyens, la sœur de la Malibran d'ailleurs. Et Pauline Viardot l'a aidé à écrire certains passages de sa partition de piano, pas d'orchestre, mais de piano, parce qu'elle connaissait mieux et qu'elle connaissait bien les voix, évidemment. Et donc elle l'a aidé, et sur le manuscrit qu'on a eu la chance de pouvoir faire acheter comme trésor national par la BNF, sur le manuscrit chant piano, qui est réapparu il y a une dizaine d'années, on a la main de Pauline Viardot. Et là, c'est quelque chose quand même très rare dans un manuscrit.
C'est-à-dire qu'elle a corrigé Berlioz,
Pas corrigé, elle a écrit. Alors, je ne sais pas comment il faisait. Probablement, il lui passait sa partition un soir. Elle travaillait, elle la lui rendait. C'est à une époque où il y a une correspondance extrêmement dense entre Pauline Viardot et Berlioz, où ils travaillent ensemble. On voit, elle lui donne des conseils. Et donc, probablement, il lui a passé sa partition un moment. Et elle a écrit tout un passage... je pense que c'est dans les Troyens à Carthage. Mmh. Et donc voilà, c'est aussi un manuscrit, une version champ-piano pour cela très importante et intéressante, parce que c'est très rare dans un manuscrit de trouver deux mains, surtout à l'époque de Berlioz. C'est ses manuscrits autographes, c'est lui qui écrit. Et là, tout à coup, on reconnaît, si on compare avec des manuscrits de Pauline Viardot, c'est son écriture.
Ah oui, qu'on a été amené à pouvoir identifier.
On a identifié sa main.
C'est
à la BNF, on a identifié sa main en comparant avec des manuscrits de Pauline Viardot qu'on avait par ailleurs. Oui.
Pauline Viardot, grâce à qui d'ailleurs on dispose du manuscrit de Don Giovanni aussi.
Mais oui,
à
absolument,
la BN,
c'est elle qui en a fait don à la bibliothèque du conservatoire à l'époque.
Ouais.
Et la bibliothèque du conservatoire est devenue partie intégrante des collections historiques de la BNF. Et donc, Don Giovanni est à la BNF, oui, au département de la musique.
On a consacré l'épisode de Vénéré de Métaclassique à Pauline Viardot. Et alors, vous disiez que, même sans avoir lu Husserl, pour le coup, Berlioz, en changeant d'échelle, redimensionne les informations qu'il a à disposition de sa propre œuvre, et on arrive à corriger sa partition orchestre après.
Oui,
et comment on le sait, ça?
Alors, on le sait parce qu'il le dit. Il y a une grande correspondance de Berlioz, et il tient pas un journal, c'est pas son truc, mais en tout cas, il mentionne presque quotidiennement, au moment où il écrit sa version pour piano, il écrit à ses sœurs, en particulier à sa sœur, et il dit, je suis en plein dans la version pour piano, c'est un sacré travail pour moi, mais ça me permet de retourner à la version pour orchestre et de corriger des fautes que j'aperçois en faisant le travail de réduction.
On va écouter un extrait de ces Troyens, la mort de Didon, avec la mezzo Lucille Richardot et Tanguy de Villancourt au piano. Transcrire une pièce vocale, c'est encore un autre exercice, Benjamin Garzia. Toujours pour les Corrigis d'Orange, vous avez réduit les quatre derniers leaders de Richard Strauss.
Alors, dans le contexte des quatre derniers leaders, il y a effectivement quelque chose qui... Il y a un sujet qui arrive, c'est l'effet de masse de l'orchestre par rapport à la voix.
Mais oui.
C'est-à-dire que comme c'est un orchestre extrêmement dense, extrêmement massif, et que Strauss a cette écriture, même dans les passages lents, une sorte de fulgurance comme ça qui menace à tout instant en fait d'exploser. C'est une œuvre qui est très difficile à diriger, très difficile à équilibrer dans sa figure originelle. Donc il y a effectivement un rapport à la voix, dans l'équilibre des voix. Je fais une toute petite incise pour revenir sur la huitième de Mahler qu'on a évoquée tout à l'heure. Pour moi, il y a un facteur très intéressant sur cette symphonie, puisque Mahler disait que toutes les autres symphonies qu'il avait écrites avant étaient un prélude à celle-ci. Et pourtant, elle a été donnée qu'une seule fois. Pourquoi ? Parce qu'il l'a écrite dans les dispositions que l'endroit, le lieu et le contexte de la première réclamaient, c'est-à-dire un hall immense, un événement extrêmement populaire et médiatique à la fois. Je suis absolument convaincu que s'il avait vécu 10 ans de plus, il aurait revu sa partition en rétractant un tout petit peu les effectifs. J'ai beaucoup de théories là-dessus, beaucoup d'arguments, mais on n'aura pas le temps ce soir. Mais il se trouve que, voilà, je suis absolument certain que de toute façon, il n'y avait pas d'autres salles de concert disponibles pour accueillir l'effectif original. Et c'est vrai que maintenant, on a un côté comme ça à voir presque, je dis on, c'est un on impersonnel, on va dire parmi la communauté des mélomanes et des musiciens, une vision assez péjorative dans certains cas de la réduction, comme quoi ça va être forcément squelettique, comme quoi ça va être forcément un appauvrissement en fait du matériau de base. En l'occurrence, chercher à jouer absolument cette symphonie à 1000 et quelques dans une salle qui fait 2000 places, pour moi il y a une forme d'absurdité aussi là-dedans, c'est-à-dire que la salle en question ne peut absolument pas emmagasiner la masse sonore qui va s'en dégager. Et ça pose un problème dans le choix des voix. Je reviens sur votre question.
Sur les, ouais,
puisque sur notamment dans les solistes, alors chez Strauss, la voix qui est nécessaire à chanter les quatre derniers leaders est avant tout choisie pour les élans lyriques dont elle peut faire preuve. Mais dans la symphonie de Mahler dont on parle, on en vient en fait à prendre des chanteurs et des chanteuses, notamment pour les parties de soprane 1, quasiment des chanteuses wagnériennes. Alors que clairement, c'est une partie de soprano coloratour lyrique, voire dramatique, je suis parfaitement d'accord, mais qui est censée quand même avoir la fraîcheur d'aller faire sonner des contrutes sur la toute fin de la symphonie quand on s'est époumonné pendant 1h30 à passer derrière un orchestre immense. C'est une redistribution des cartes très intéressante. Dans le cadre des leaders, on avait effectivement ça. Mais en solutionnant l'aspect de dimension de l'orchestre, on a complexifié les parties orchestrales elles-mêmes, tellement bien que je m'étais fait gronder par certains de mes musiciens qui me disaient bon, une fois mais pas de celui-là, parce qu'effectivement après on en arrive à des parties totalement extrêmes, notamment pour la petite harmonie.
Mais c'est-à-dire archi-virtuose.
Archi-virtuose, qui n'arrête jamais, qui passe du grave à l'aigu, de l'aigu au grave, de très fort à un solo extrêmement piano. Voilà, c'est très virtuose en soi.
Bien. On va se quitter avec le premier de ces derniers leaders interprétés par Vanina Santoni et donc la Maleriane Camerata que vous dirigez, Benjamin Garcia. Merci beaucoup. Merci Robin Melchior, merci Cécile Le Reynaud et merci au public venu au salon Marguerite Long de la bibliothèque Lagrange-Fleuret écouter cette émission en live.